les enfants de Chronos.
Donc Philippe Papet, je continue mon intervention sur les rapports entre l'Église et la République, en fait, entre 1870 et 1914, sur les tensions religieuses. Donc, la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, âprement discutée, va être finalement votée le 9 décembre 1905. C'est plus Émile Combes, le président du Conseil, c'est Aristide Briand, mais ça ne change pas grand-chose sur le contenu et les attendus de la loi. Alors, on pourrait croire qu'une fois que cette loi est votée, le programme anticlérical est réalisé. Et il l'est, effectivement. Les congrégations ont été expulsées. Toutes les congrégations, pratiquement, même les chartreux, ont été expulsés de la Grande Chartreuse dans les Alpes. L'enseignement catholique est réduit à peu de choses, le temps que les écoles publiques puissent accueillir, je vous l'ai dit, les élèves. Et on pourrait croire que maintenant que le programme anticlérical est achevé, l'affaire est close. Pas tout à fait, parce que le gouvernement radical veut encore continuer ses avantages. Il va y avoir une deuxième poussée, enfin une dernière poussée anticléricale en 1906, avec ce qu'on va appeler donc l'affaire des inventaires. Alors de quoi s'agit-il, l'affaire des inventaires? Il y a en 1905 un divorce entre l'Église et l'État, puisque l'État donc ne finance plus les Églises. Mais tout divorce suppose une estimation des biens de ce qui va être séparé. Et donc, le gouvernement va demander à ce qu'on fasse des inventaires des biens d'église. Il s'agit, en fait, pour les agents des domaines, les percepteurs, etc., les agents de l'enregistrement, d'aller dans les églises et de faire l'inventaire des chasubles, des calices, des encensoirs, des encensoirs, de tout ce qui a une certaine valeur. Évidemment, c'est une disposition qui va être humiliante pour les catholiques de voir des personnes du gouvernement faire l'inventaire de ce qu'ils ont. Parfois, ou faire ouvrir les tabernacles pour voir ce qu'il y a comme calice. Disposition donc qui est plus humiliante que véritablement efficace et qui va susciter d'énormes, bien sûr, résistances parce que beaucoup vont estimer, à juste titre, que c'est une mesure qui était surtout vexatoire. Alors la résistance va s'organiser. Alors qui va résister? Alors très souvent, ceux qu'on appelait les conseillers fabriciens. Alors, petite précision, avant 1905, dans chaque paroisse, dans le cadre concordataire, il y avait une assemblée qu'on appelait le conseil de fabrique, qui était chargée de gérer justement les biens de la paroisse. Le curé en était membre, sans en être président, et il s'agissait donc d'organiser le casuel, d'organiser donc les abonnements aux messes, etc. Ces conseils fabriciens donc, vont disparaître en 1905, mais leur dernière intervention va être de résister à ces inventaires vexatoires. Alors, je prends quelques exemples. Le 13 février 1906, à Lagny-le-Sec, l'abbé Flèche émet une vive protestation qu'il remet par écrit à l'agent de l'enregistrement venu pour l'inventaire. Il est soutenu par ses paroissiens, par les anciens membres du conseil fabricien et par le comte de l'Espinasse Langeac. À Montataire, l'abbé Présal proteste de la même façon, entouré du maire d'Aussin, du baron de Condé, de l'ensemble des conseillers fabriciens qui entonnent des chants religieux. Le 5 mars, l'agent des domaines trouve l'église Saint-Martin de Moret sciemment fermée et fait appel à la gendarmerie de Nanteuil pour inventorier le lendemain, en faisant ouvrir de force les portes. Le 8 mars, même résistance à Baron, l'abbé Masse remet un courrier de protestation, tandis que le président du conseil fabricien, Robinet, revendique les droits des donateurs. En effet, les conseils fabriciens sont habilités à dire ben « ça, c'est nous qui l'avons donné ». Donc on le reprend si jamais, évidemment, il y a séparation. Le 12 mars, à Versigny, le sous-inspecteur de l'enregistrement et du timbre de Senlis, le sieur Levron, est apostrophé par la comtesse de Kersin, je cite, « Vous pouvez aller chercher les gendarmes, nous disposons simplement ce que nous pensons de vous et du métier que vous faites. » Donc les tensions sont quand même assez fortes. Ces inventaires se dérouleront dans une certaine difficulté, et dans Levallois dureront en fait deux mois, le 1er le 26 janvier, le dernier le 26 mars 1906. Mais bon, ces inventaires étant faits, il y a évidemment plus grand-chose maintenant à faire pour le programme anticlérical. Alors, je précise quand même la situation. Les églises sont maintenant à la disposition des communes, et il va falloir trouver une façon pour les communes de s'entendre avec les desservants, pour faire en sorte que le culte soit organisé pour les personnes donc, qui veulent assister à la messe. Mais donc, cette loi de 1905 fait que l'État se charge des cathédrales et les communes des églises. Et pour elles, ça va être un enjeu important parce que les restaurations des églises, c'est parfois extrêmement coûteux. Et du coup, là encore, il va y avoir une petite faiblesse dans la loi. Les catholiques vont se trouver finalement à long terme plutôt satisfaits de cette loi qui fait que les églises sont de la responsabilité des communes. Leur entretien donc leur incombe complètement. Que peuvent faire les catholiques une fois que la séparation a été faite ? Eh bien, toujours pareil, donc essayer de souder les paroissiens, de se rassembler autour des pèlerinages, notamment, je le rappelle, celui de Liesse, dans l'Aisne, qui était à l'époque extrêmement couru. Liesse, vous savez, c'est près de Laon. Il y avait un pèlerinage assez suivi à la Vierge Noire. Et puis, il y a aussi donc, des pèlerinages plus locaux, notamment, je vous l'ai dit, à Brasseuse et à Mont-Lognon. L'Église essaie aussi de vivifier des associations, l'œuvre de la Sainte Enfance, l'œuvre de la propagation de la foi, l'œuvre des bons livres, pour essayer toujours de regrouper les gens autour des paroissiens, autour de thèmes mobilisateurs. On revivifie aussi les patronages, par exemple à Senlis, à Crépy. Alors qu'est-ce que c'est qu'un patronage ? Eh bien c'est surtout le moyen d'encadrer la jeunesse. Pour les jeunes filles qui vont au patronage, le dimanche est rythmé par les messes, les vêpres bien sûr, l'après-midi, mais aussi des promenades en groupe, des veillées, des conférences, ou des travaux de couture dans ce qu'on appelle l'ouvroir, différentes leçons d'histoire et de sciences. À Senlis, le patronage Saint-Riol occupe les jeunes gens entre conférences, sorties culturelles ou compétitions de billard. Donc il y a une façon de mobiliser ces troupes sur un cadre associatif. Et puis aussi, ça c'est très typique du Valois, je vais même dire caractéristique, les compagnies d'arc. Les compagnies d'arc qui ont une tradition catholique, manière de rassembler les chefs de famille dans une activité propre à revitaliser l'esprit de groupe et l'esprit de clocher, car les compétitions demeurent entre villages. À Baron, la compagnie La Renaissance, compagnie d'arc, est animée par l'abbé Masse, qui lui-même s'entraîne dans le grand jardin du presbytère et qui est couronné roi de la compagnie en 1906. Et puis les bouquets provinciaux auxquels participe l'évêque rassemblent les archers du département. Alors, quelques bouquets provinciaux à Nanteuil en 1911, à Senlis en 1912. Alors, évidemment, ces démonstrations de présence catholique, pas officielles, mais à travers les compagnies d'arc, déplaisent aux militants républicains qui veulent trouver une riposte à cette visibilité de l'Église catholique. Et on voit apparaître des sociétés de tir. Sociétés de tir qui, elles, sont républicaines, laïques. Donc, un sport notoirement plus moderne que ces archers de l'ancien temps. Se crée ainsi la société de tir l'Indépendante à Baron, nom astucieusement choisi, ou l'Espérance à B. On voit la même chose à Béthisy, où il y a la société de tir et puis la société d'archerie qui se font rivalité. Alors cela dit, à partir de 1907, la querelle diminue quelque peu. Alors pourquoi, après 1907, la querelle diminue de tension ? Pour l'essentiel, parce que le programme anticlérical est achevé. Que voulez-vous que les anticléricaux fassent de plus ? Ils ont retiré les congréganistes de l'enseignement public, ils ont fermé les écoles catholiques, ils ont expulsé des congrégations, ils ont séparé l'Église de l'État, ils ont laïcisé tous les tribunaux, l'armée, ils ont fermé l'ambassade de la République auprès du Vatican en 1904. On ne voit pas ce qu'il pourrait y avoir de plus. Donc la réalisation du programme anticlérical achève en quelque sorte les tensions. Il y a aussi le fait que les socialistes qui renforcent leur présence dans le pays, d'élection en élection, trouvent que la direction du pays, assurée par les radicaux, Clémenceau, etc., eh bien que ces radicaux ne font que l'anticléricalisme. Ils en ont un petit peu assez. Ils voudraient que d'autres choses soient mises sur le tapis que l'anticléricalisme. Ils voudraient qu'on parle de réforme sociale, de retraite ouvrière, et non pas simplement limiter l'action républicaine à l'anticléricalisme. Vous savez qu'entre 1906 et 1907, des grands troubles sociaux affectent le pays. La grève des cheminots en 1906, la grève des vignerons en 1907. Et à chaque fois, Clémenceau réagit avec une certaine brutalité qui exaspère le camp socialiste. Et du coup, les affaires de relations avec les catholiques intéressent beaucoup moins de monde. Et puis, autre dossier chaud, hein, à partir de 1907, les tensions internationales. 1907, c'est la réalisation de la Triple Entente. La France a réussi en 1907 à organiser un camp autour d'elle pour préparer la revanche contre l'Allemagne à laquelle elle tient absolument. Elle a, en 1893, déjà depuis pas mal d'années, fait l'alliance avec la Russie, tsariste, ce qui paraît quand même assez étonnant quand on est la République française, de faire l'alliance avec le pays le plus réactionnaire qui soit en Europe. Mais il s'agissait de prendre en tenaille l'ennemi allemand. Et en 1904, on réalise l'entente cordiale avec les Anglais. On oublie les querelles ancestrales avec nos voisins britanniques et on signe l'entente cordiale. D'ailleurs, le nom n'est pas indifférent, c'est entente cordiale, c'est pas franche amitié. Et en 1907, les Français réussissent enfin, après bien des tensions parce que les deux pays ne s'entendaient guère, à rapprocher l'Angleterre de la Russie et à faire la triple entente. Et à partir de 1907, la France va activer tous les dossiers internationaux pour essayer de faire en sorte qu'elle s'exaspère. Et vous savez que les Français iront jusqu'à soutenir la Serbie. On sait ce qu'il en sera en 1914. Donc tous ces dossiers activent bien sûr d'autres tensions que les tensions anticléricales. Mais bon, n'empêche que ça reste encore dans les mémoires, qu'il y a bien eu deux Frances qui se sont opposées entre 1870 et 1914. Une France qu'on peut qualifier de conservatrice, catholique, en partie royaliste, mais ce n'est plus vrai après 1885, c'est une France donc plutôt conservatrice que royaliste, et une France, disons, de son siècle, républicaine. Mais le camp républicain, il faut bien se rendre compte qu'il a été, qu'il a évolué vers la gauche entre 1876 et 1914. D'abord les républicains modérés, puis les radicaux, puis la poussée socialiste après 1906-1907. Donc deux France qui s'opposent, même si l'essentiel donc, des débats ont été tranchés. Alors, accalmie ne signifie pas amoindrissement des convictions. En 1907, le village de Baron est touché par une série d'actes anticléricaux. Des calvaires autour du village sont abattus et l'église est fracturée. Donc, on montre que les vieilles querelles ne disparaissent pas décidément si facilement. Il faudra la terrible expérience de la Grande Guerre pour que renaisse, fût-ce pour un temps, une communauté nationale.